Je me disais, qu'est-ce que je vais dire encore? Qu'ajouter encore? Il y a 24 ans que je parle, je prêche, je dis des choses. Et j'ai trouvé dans mon bureau un cadeau qu'on m'avait fait au mois d'octobre 1994, à mon arrivée ici à Narbonne. C'est humoristique, mais montrait bien qu'est-ce que c'est un curé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment doit-il faire? Qui est mon curé? Je vous le lis. S'il prêche plus de 10 minutes, il n'en finit plus. S'il parle de contemplation de Dieu, il plane. S'il aborde des problèmes sociaux, il vire à gauche. S'il reste à la paroisse, il est coupé du monde. S'il a les cheveux longs, c'est un contestataire. S'il a les cheveux courts, il est coincé. S'il marie et baptise tout le monde, il brade les sacrements. S'il devient plus exigeant, il veut une religion des purs. S'il reste au presbytère, il ne va jamais vers personne. S'il fait des visites, il n'est jamais au presbytère. S'il n'organise pas de fête, il ne se passe rien à la paroisse. S'il fait des travaux à l'église, il jette l'argent par les fenêtres. S'il ne fait aucune réparation, il laisse tout à l'abandon. S'il a un conseil paroissial, il se laisse mener par n'importe qui. S'il n'a pas de conseil paroissial, il est clérical et jupitérien. S'il est jeune, il n'a pas d'expérience. S'il est âgé, il devrait prendre sa retraite. Et s'il vient à mourir ou s'il part, il est unique. Maintenant, plus sérieusement, nous avons écouté l'Évangile avec une belle parole qui m'a toujours aidé, soutenu, éclairé. Talitha cum, c'est le mot que Jésus dit à cette jeune fille. Lève-toi, debout, ressuscite, vis ta vie. Il s'agit d'une jolie expression de la part de Jésus. Et c'est beaucoup plus qu'une expression, c'est un projet de vie. Jésus touche, et son toucher est sauveur. Son toucher n'est pas pollué, ni par la domination, ni par la violence, ni par la séduction. Il est libre et libérateur. À Narbonne, j'ai été touché par l'histoire, par la vie, par des rencontres. Si je regarde mon histoire ici, parmi vous, je vois trois étapes. La première, de 1994 à 2002, c'est le moment de la découverte, des missions dans le quartier. On connaissait personne et on a osé sortir, frapper aux portes. C'était pas toujours facile, mais il fallait oser. C'est le moment de l'éducation, la découverte de l'école Saint-Joseph. J'étais jeune. J'avais tous mes cheveux, je te rappelle Jean-Louis. Jean-Louis était là pour la messe d'entrée. J'étais curieux et réceptif. Une autre étape, de 2002 à 2006, c'est le moment où j'étais nommé gardien et curé de Saint-Bonaventure. Alors pour moi, c'est le temps de l'action, de la proposition. Un passage du voir au agir. Un temps précieux de liberté, de créativité. C'est la naissance de beaucoup d'initiatives. Rappelez-vous, les initiatives sociales, comme le centre d'écoute, culturelles, comme les conférences franciscaines et les soirées théologiques, plus tard le PUC. Des initiatives spirituelles, des temps d'adoration, des prières, des fêtes des baptisés, la Saint-Valentin, plus tard l'Épiphanie, les rois mages. En tant que paroisse et église, nous avons essayé d'ouvrir les chrétiens à la culture, à la convivialité, à la solidarité. Le culte est naturel. L'église est un lieu où on se retrouve pour nourrir la vie intérieure. Il fallait aussi déborder des murs de l'église. Et de 2006 à 2018, c'est le temps des responsabilités. Responsabilité en tant que provincial des franciscains de France et Belgique, et responsabilité aussi dans le diocèse en tant que vicaire épiscopal du Narbonnais. Pendant ces années, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup appris. J'ai vécu aussi une certaine tension entre les liens avec la réalité locale et les itinérances institutionnelles. Où est François? Où est le frère François? Il est à Paris, il est à Bruxelles, il est à Rome. Et pendant ce temps, mes frères étaient là pour assumer les responsabilités locales. J'ai le souvenir, au tout début, de la belle communauté de Saint-Bonaventure. En 1994, les fidèles étaient peu nombreux. Un petit reste, mais ils étaient fidèles et ils attendaient des changements, du sang neuf. Avec eux, nous avons pu recommencer une étape de réparation, de construction de l'église. Narbonne, pour moi, a été un lieu de rencontre. En paroisse, nous avons l'honneur d'être présents dans la vie des personnes lors des grands moments bio-existentiels. Nous sommes présents et nous accompagnons les joies, les peines des familles, les mariages, les baptêmes, les communions, les funérailles. Et j'ai eu le privilège d'avoir des contacts et des liens avec beaucoup des familles narbonnaises. En voyant vos visages, je vois une histoire. Je vois des rencontres. Nous avons bâti des liens. Nous avons essayé de travailler à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur. Nous avons eu des liens à l'extérieur, avec les médias, avec les autorités civiles, militaires, économiques et sportives. J'ai découvert un monde que j'ignorais, le monde du rugby. J'allais souvent au match de volley. Tout un monde où il est important d'être présent. Nous avons travaillé aussi avec les autorités religieuses, dans le travail et dans le domaine interreligieux. Le GIP, le groupe interreligieux pour la paix, existe, marche toujours et travaille pour que dans notre ville, dans nos communautés, il y ait plus de paix et que les communautés soient apaisées. Nous avons contacté des milieux très différents, où j'ai pu connaître des personnes avec des parcours divers. Mais avec eux et par eux, j'ai grandi. Je crois de plus en plus à une société où chacun sort de sa chapelle pour entrer dans un regard holistique de la vie. Chacun, évidemment, selon ses responsabilités, selon son charisme. Mais il me semble que dans notre société, nous devons être capables de travailler avec les autres, les uns avec les autres, pour le bien commun de tous. C'est une belle responsabilité. J'ai fait l'expérience heureuse de travailler avec des laïcs engagés dans la vie de l'Église et dans tous les domaines. La visibilité des laïcs est fondamentale pour la mission dans le monde. Du catéchisme aux préparations au baptême, au mariage, au catéchuménat, les funérailles, dans le domaine de la culture, des conférences, des médias, du social, de la santé, du spirituel, du matériel, l'officialité, les finances, les travaux, le soin de l'Église, les conchitas, comme je les appelais avec beaucoup d'affection, les fraternités franciscaines. Quelle richesse d'avoir des laïcs qui partageaient notre spiritualité. Qu'aurions-nous fait sans les fraternités? Nous avons pu compter et nous pouvons compter sur des personnes donnant de leur temps et de leur bien pour l'Église. Nous avons fait en tant que communauté la belle expérience, non virtuelle mais réelle, d'être des frères mendiants. Et Dieu sait si au début, mendier, demander, m'écouter, c'était jamais pour nous frères, mais pour l'Église, pour le rayonnement de l'Église. Et quel bonheur pour moi, en tant que prêtre franciscain, d'avoir connu des personnes formidables sur mon chemin. Certaines pratiquantes, d'autres moins. Certaines du milieu de l'Église, d'autres pas. Mais avec beaucoup de personnes, j'ai pu échanger, tout simplement, et en toute simplicité, et en toute vérité, sur la vie, les méandres de la vie, les enjeux de la vie. Dans ces rencontres des qualités, on grandit toujours. Quand on parle, on dialogue en vérité, les autres apportent toujours une partie de leur vie à ta vie, une partie de leur histoire à ton histoire. Et dans ce partage, il y a une vraie transformation réciproque. Il est vrai que nous sommes tous très pudiques par rapport à notre vie personnelle, mais il est important de partager l'essentiel, non pas seulement ce qu'on fait, ce qu'on a et nos réseaux des connaissances, mais aussi ce que l'on est en vérité. Sous ce point, il y a de la vérité, de l'authenticité. Et nous passons de la personnalité ou du personnage à la personne. Il s'agit d'une belle conversion, d'une belle vision de l'autre. Comme franciscain, j'ai essayé de créer des ponts entre ceux qui sont au sommet des lieux d'action et de décision dans la société et la base, avec ses discrétions et ses fragilités. Notre charisme franciscain nous pousse à soigner, dans la mesure de nos possibilités, les qualités relationnelles. Nous sommes tous témoins de beaucoup de tensions dans la société et dans l'Église. Par la prière, par la prédication, par les enseignements, par la vie, un chrétien doit contribuer à humaniser davantage notre vie et notre société. La dimension intérieure, spirituelle, nous aide à être moins violents, moins primaires, plus respectueux. Dans la mission, nous devons donner un visage à l'amour. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sans l'amour, la mort et ses signes mortifères gagnent du terrain. Avec l'amour, avec la bienveillance, avec la bonté, nous vivons moins crispés et plus dans la confiance, sans peur, plus libre. Chaque personne a une dimension spirituelle. Il ne faut pas amputer cette dimension. Elle tire vers le haut. Pendant ces années, nous avons lancé beaucoup d'initiatives. Le but n'était pas de favoriser l'activisme ou de rentrer dans une logique de production ou d'exhibition. Nous avions un terrain vierge devant nous. L'Église a besoin d'oser vivre sa mission, comme je l'ai toujours dit, sans arrogance et sans complexe. Oui, nous avons fait des choses. Nous avons vécu de belles choses ensemble. Alors mes amis, gardez la mémoire et la force de ces moments. Au début, je n'oublie pas, j'ai combattu contre les peurs ou l'immobilisme. Je me rappelle un conseil pastoral. Faire venir des ministres, mais tu penses, tu crois qu'ils vont venir pour toi? Faire venir des sportifs, mais c'est impossible, mais il ne faut pas. Nous avons osé. Ensemble, nous avons construit des signes d'espérance. Alors mes amis, continuez à croire et à espérer. Je l'ai souvent dit, nous n'avons pas des signes de pouvoir, mais nous avons le pouvoir des signes, et nous l'avons prouvé. Mes responsabilités m'ont conduit également à travailler pour la communion ecclésiale, avec les prêtres, nos amis les diacres, les religieux, les religieuses. Grâce à la confiance de Mgr Planet, il m'a appelé à son conseil en 2007. Ce travail a été fort intéressant pour mieux connaître les mécanismes de la vie relationnelle et ecclésiale. La communion, l'unité dans l'Église, est le signe de la maturité spirituelle. Elle se traduit par des comportements sereins, pacifiques, où il n'y a plus de place pour la jalousie et les critiques. Alors ce matin, je vais vous dire tout simplement merci. Je vous l'accorde, ce n'est pas très original, mais le terme est dense de signification en ce moment. Merci pour toutes ces rencontres que je viens de citer. Merci pour la bénédiction d'avoir beaucoup reçu, d'avoir fait l'expérience de votre générosité, de votre bienveillance, cher Narbonne. Oui, je peux vous le dire, j'ai trouvé toujours un bon accueil et de la sympathie auprès de vous. J'ai essayé de m'inscrire dans mon ministère, dans le mouvement du don. Donner le temps, donner l'énergie, donner les capacités pour bâtir, pour relever, pour réparer. Lors des rencontres officielles et institutionnelles, mais aussi lors des rencontres personnelles. Mon modèle, c'est le Christ. Nous l'entendons tout à l'heure, pendant la consécration. Le Christ n'a pas pris, il a donné. Il a tout donné. Je voulais dire aussi un grand merci à mes frères Charles et Pierre, qui sont là, toujours fidèles. Charles, sage, plein d'humour. Il a une belle expérience de vie. Il rassure, il nous calme, il calme mes agitations. Et Pierre, un frère toujours disponible, bon et loyal, sur lequel j'ai toujours pu compter. Lors de mes absences, le frère François était dans le déplacement, c'est eux qui étaient toujours là. Je pense aussi aux autres frères qui sont passés chez nous. L'école de la fraternité est une école de diversité et d'unité. En trois mots, je dirais que quand on essaie de vivre la vie à fond, on aime, on souffre et on apprend. Surtout, on apprend. À la fin de long séjour narbonnais, tradition franciscaine oblige, je l'ai fait quand j'ai cessé d'être custode provincial au chapitre, je l'ai fait ce matin aussi avec vous. Il est important de poser des pardons. Je suis maladroit, je me connais, et j'ai pu blesser des personnes par mes paroles ou par mon comportement. Je leur demande pardon. Je vous dis maintenant à vous tous, n'arrêtez pas de rêver, de proposer, de vivre. Dépassez la tentation de la nostalgie, de la lamentation. Au contraire, talita cum, oui, relevez-vous, vivez, apportez amour et joie à la paroisse, dans vos lieux de vie. Soyez témoins de Jésus. Musclez votre vie intérieure pour rayonner à l'extérieur. Je pars fin août, je ne pars pas demain. Je pars fin août. La vie continue. Les traces de ce que nous avons construit ensemble restent. Alors, continuez à écrire l'histoire avec votre créativité. L'esprit est à l'œuvre. Bonne route.